Chapitre 12. Le lundi d'avant Pâques, la nuit. Jésus est encore, le soir, dans l'oliveraie, et il y est avec ses apôtres. Et de nouveau, il parle. Et encore un autre jour est passé, maintenant la nuit, et puis demain, et puis un autre demain, et puis la scène pascale. Philippe demande. « Où la ferons-nous, mon Seigneur? Cette année, il y a aussi les femmes. » Barthélemy dit, « Et nous n'avons encore pourvu à rien, et la ville est pleine, bondée. Il semble que cette année, Israël tout entier, jusqu'au plus lointain prosélyte, soit accouru au rite. » Jésus le regarde, et comme s'il récitait un psaume, il dit, « Rassemblez-vous. Hâtez-vous, accourez de tous côtés vers ma victime que j'immole pour vous, vers la grande victime immolée sur les monts d'Israël pour manger sa chair et boire son sang. »
Mais quelle victime? Quelle victime? Tu sembles quelqu'un qui est possédé par une folie fixe. Tu ne parles que de mort. Et tu nous affliges,
dit avec véhémence Barthélemy. Jésus le regarde encore, en quittant des yeux Simon qui se penche sur Jacques d'Alphée et sur Pierre et parle avec eux. Et il dit, « Comment? Tu me le demandes? Tu n'es pas un de ces petits qui, pour être instruits, doivent recevoir la lumière septiforme. Tu étais déjà instruit en l'Écriture avant que je t'appelle, par l'intermédiaire de Philippe, dans cette douce matinée de printemps, de mon printemps. Et tu me demandes encore quelle est la victime immolée sur les monts, celle vers laquelle viendront tous les gens pour s'en nourrir? Et tu m'appelles fou, d'une folie fixe, parce que je parle de mort? Ô Bartholomaï, comme le cri des sentinelles dans votre ténèbre qui jamais s'est ouverte à la lumière, j'ai lancé une fois, deux fois, trois fois le cri annonciateur. Mais vous n'avez jamais voulu le comprendre. Vous en avez souffert sur le moment. Et puis, comme des enfants, vous avez vite oublié les paroles de mort et vous êtes retourné joyeux à votre travail, sûr de vous et plein de l'espérance que mes paroles et les vôtres persuaderaient de plus en plus le monde de suivre et d'aimer son Rédempteur. Non, c'est seulement après que cette terre aura péché contre moi. Et rappelez-vous que ce sont des paroles du Seigneur à son prophète. Après seulement que le peuple, et non seulement celui-ci en particulier, mais le grand peuple d'Adam, commencera à gémir. Allons vers le Seigneur, lui qui nous a blessés, nous guérira. Et le monde des rachetés dira, après deux jours, c'est-à-dire deux temps de l'éternité, durant lesquels il nous aura laissés à la merci de l'ennemi, qui avec toutes ses armes nous aura frappés et tués, comme nous avons frappé et tué le saint. Et nous le frappons et le tuons, parce que toujours il y aura la race des Caïn, qui tueront par leurs blasphèmes et leurs œuvres mauvaises le Fils de Dieu, le Rédempteur, en décochant des flèches mortelles, non sur son éternelle personne glorifiée, mais sur leur âme rachetée par lui, pour la tuer et pour le tuer par conséquent dans leurs âmes. C'est seulement après ces deux temps que viendra le troisième jour et que nous ressusciterons en sa présence dans le royaume du Christ sur la terre, et que nous vivrons en sa présence dans le triomphe de l'Esprit. Nous le connaîtrons, nous apprendrons à connaître le Seigneur pour être prêts à soutenir, grâce à cette vraie connaissance de Dieu, la dernière bataille que Lucifer livrera à l'homme avant la sonnerie de l'ange de la septième trompette qui ouvrira le cœur bienheureux des saints de Dieu au nombre parfait pour l'éternité.
et ni le plus petit enfant, ni le vieillard le plus âgé ne pourra jamais être ajouté au nombre. Le cœur qui chantera, il est fini, le pauvre royaume de la terre. Le monde est passé en revue avec tous ses habitants devant le juge victorieux. Et les élus sont maintenant entre les mains de notre Seigneur et de son Christ, et lui est notre roi pour toujours. Louange au Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera, parce qu'il a pris son grand pouvoir et qu'il est entré en possession de son royaume. Oh, qui parmi vous saura rappeler les paroles de cette prophétie qui résonne déjà dans les paroles de Daniel, avec un son voilé et qui maintenant retentit par la voix du sage devant le monde étonné et devant vous, plus étonné que le monde? La venue du roi continuera le monde gémissant dans ses blessures et enfermé dans son tombeau, après avoir mal vécu et être mal mort, enfermé par son septuple vice et par ses hérésies sans fin. L'esprit agonisant du monde enfermé, avec ses derniers essais, à l'intérieur de son organisme, mort lépreux à cause de toutes ses erreurs. La venue du roi est préparée comme celle de l'aurore, et elle viendra à nous comme la pluie du printemps et de l'automne. L'aurore est précédée et préparée par la nuit. C'est la nuit, celle de maintenant. Et que dois-je te faire, Éphraïm? Et que dois-je te faire, ô Judas? Simon, Bartholmaï, Judas et mes cousins, vous plus instruits dans le livre, reconnaissez-vous ces paroles? Ce n'est pas d'un esprit fou qu'elles viennent, mais de quelqu'un qui possède la sagesse et la science. C'est comme un roi qui ouvre avec assurance ses coffres forts parce qu'il sait où est la gemme donnée qu'il cherche, après l'avoir mise de sa main à l'intérieur, que je cite les prophètes. Je suis la parole. Pendant des siècles, j'ai parlé par des lèvres humaines, et pendant des siècles, je parlerai par des lèvres humaines. Mais tout ce qui est dit de surnaturel est ma parole. L'homme ne pourrait pas, même le plus docte et le plus saint, monter avec une âme d'aigle au-delà des limites du monde aveugle pour saisir et dire les mystères éternels. L'avenir n'est présent que dans la pensée divine. C'est une sottise chez ceux qui ne sont pas élevés par notre volonté de prétendre faire des prophéties et des révélations. Et Dieu les démentit et les frappe parce qu'un seul peut dire « Je suis » et dire « Je vois » et dire « Je sais ». Mais quand une volonté qu'on ne mesure pas, qu'on ne juge pas, qu'il faut accepter en inclinant la tête en disant « Me voici », sans discuter, dit « Viens, monte, écoute, vois, répète », alors, plongée dans l'éternel présent de son Dieu, l'âme, appelée par le Seigneur pour être voix, voix et tremble, voix et pleure, voix et jubile. Alors, l'âme, appelée par le Seigneur pour être parole, écoute, et arrivant à des extases ou à une sueur d'agonie, dit les paroles redoutables du Dieu éternel, parce que toute parole de Dieu est redoutable, venant de celui dont le verdict est immuable et la justice inexorable, et tournée vers les hommes dont trop peu méritent amour et bénédiction, et non pas foudre et condamnation.
maintenant, cette parole qui est donnée et méprisée, n'est-elle pas la cause d'une faute redoutable et d'une punition pour ceux qui, l'ayant entendue, la repoussent ? Elle l'est.